Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux de partager ce moment de culte avec vous. Et je voudrais, comme cela a été annoncé, partager ce matin sur cette thématique en essayant d'être le plus simple et en même temps pratique, que nous soyons les uns et les autres aussi encouragés par rapport à cette pensée. Le défi de l'incertitude, et que je voudrais développer comme suit. Nous verrons en premier point l'incertitude, une réalité, ensuite une conséquence à l'incertitude, et enfin, face à l'incertitude, une attitude. Le futur, nous le savons, est le lieu par excellence de l'expression de l'incertitude. Tout ce qui est futur est par définition incertain. Nul ne peut savoir ce qu'il adviendra dans la minute qui vient, l'heure, la semaine, l'année. Et ce, quelle que soit la situation passée, qu'elle ait été stable ou non, et nous sommes tous les êtres humains égaux dans ce principe. Se préoccuper à chaque instant de tous les incidents qui pourraient advenir sur notre environnement familier, nous imaginons que cela serait une charge mentale extrêmement lourde. Notre ressenti d'incertitude est une sorte de calculette interne de la probabilité qu'il se passe quelque chose. Quand nous nous sentons en paix, par exemple au coin du feu, chez nous, avec nos proches, alors notre calculette d'incertitude interne affiche une probabilité très faible qu'il se passe quelque chose, mais pourtant il n'en est rien, car à la seconde, le téléphone peut sonner apportant une mauvaise nouvelle. Quand au contraire, nous ressentons un fort sentiment d'incertitude, c'est que notre calculette affiche alors une probabilité élevée d'un événement imprévu. Par exemple, l'été dernier, on nous a un peu conditionné pour craindre qu'il se passe quelque chose qui perturbe les Jeux Olympiques. Pas si vous vous souvenez. Aïe, 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 qu'est-ce qui va se passer? Notre ressenti d'incertitude était donc élevé, pourtant il ne s'est rien passé. Mais force est de constater que cette calculette d'incertitude est principalement alimentée, il faut le reconnaître, par les médias, l'entourage ou bien nos propres peurs. Elle ne représente en aucun cas un instrument fiable. Chacun affiche une indication différente qui dépend de l'inclinaison qu'il a à projeter des événements tragiques. Personnellement, et ma femme souvent me le reproche, j'ai le chic pour voir le verre à moitié vide. Il suffit qu'un de mes enfants m'appelle pour me dire « Papa, j'ai un petit souci, que j'en fasse une montagne ». C'est ma nature et il faut que je la combatte parce que je suis vite inquiet. Ce qui, on va le voir, n'est pas forcément intéressant et ce que Dieu veut pour son enfant. Mais lorsque une majorité de gens affichent une haute valeur d'incertitude et que cela nous pollue un petit peu autour de nous, cela crée un sentiment partagé alors de périodes à risque. Quoi qu'il en soit, la parole de Dieu met en garde contre le fait de penser que l'homme peut contrôler son avenir. Que dit Jacques ? À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. » Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire « Si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. » Nous le comprenons, l'incertitude est une réalité avec laquelle il faut vivre chaque jour qui passe sans pour autant se laisser dominer par la crainte de ce qui pourrait arriver. Facile à dire, me direz-vous. Job, à un moment donné, écrit ou dit « Mes soupirs sont ma nourriture, mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Alors face à la réalité de l'incertitude, ce qui rassure la majorité des hommes sur la terre, et on s'en rend compte de plus en plus, c'est l'argent. Pensant qu'un compte en banque bien rempli les mettrait à l'abri de toute mauvaise surprise. L'argent est sur le premier podium, sur le numéro 1 du podium aujourd'hui. Ce qui montre aussi et qui nous fait discerner la puissance du prince de ce monde qui agit à travers cela pour essayer de tenir les êtres humains sous sa coupe. On pense à la fameuse banqueroute de 1929 qui date maintenant, mais qui ont poussé d'ailleurs de nombreuses personnes ayant tout perdu au suicide. Nous voyons bien pourquoi le Seigneur Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Je rappelle que Mammon est avant tout une puissance séductrice démoniaque qui cherche à influencer, à posséder, à contrôler la vie des hommes pour qu'ils aiment l'argent et lui fassent confiance, d'abord. Confiance pour le lendemain, mais un lendemain qui demeure quand même toujours incertain, même si le compte en banque est bien fourni. Mais pour les adorateurs de Mammon, cet argent peut rassurer. Je rappelle que l'argent est le sujet le plus développé dans l'Écriture, les deux testaments confondus. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus un hasard que Jésus ait par deux fois, dans les évangiles, cela est rapporté, fait cette comparaison et cette opposition entre Dieu et Mammon. Deux divinités, si je peux permettre. C'est l'un ou l'autre. Attention. Où mettons-nous notre confiance, et en particulier face à l'incertitude? Deuxième pensée, une conséquence à l'incertitude. Je ne sais pas comment vous avez ressenti le début de l'année 2025, mais reconnaissons que cette année 2025 fait sans doute partie de ces années qui débutent sous un signe largement partagé d'incertitude. Que ce soit la situation politique intérieure chez nous, que ce soit la situation économique mondiale, la situation géopolitique, ces guerres en cours, celles qui sont peut-être sur le point d'éclater, cette fameuse deuxième présidence de Trump, les envolées lyriques d'un Elon Musk, la violence au quotidien, le réchauffement climatique, etc., etc. Il est difficile d'identifier des facteurs de stabilité collectivement admis. À ce titre, cette incertitude peut favoriser, bien évidemment, l'inquiétude. Vous noterez que l'affirmation de Jésus que j'ai nommée lorsqu'il parlait de Mammon, c'est Matthieu chapitre 6, verset 24. Et à partir du verset suivant, après avoir parlé « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon », eh bien le Seigneur va dire ceci, « C'est pourquoi je vous dis ». Il fait un lien avec ce qu'il vient de donner comme avertissement. Où mettez-vous votre confiance ? C'est pourquoi je vous dis, et voilà ce que je vous dis, pour vous encourager à aller dans le bon sens. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Pourquoi vous inquiétez donc au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, toutes ces choses. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà un texte que nous connaissons probablement très bien, et qui pourtant, il faut le reconnaître, a bien du mal à s'imposer dans notre vie au quotidien. Jésus veut nous rendre attentifs au principe même ici de la création qui nous entoure à travers ces deux exemples tirés de la nature qui sont très parlants, les oiseaux du ciel tout d'abord, qui ne sèment ni ne moissonnent, qui n'amassent rien. Dieu les nourrit d'une façon extraordinaire. Vous valez beaucoup plus qu'eux, dira Jésus. Je vous rends attentif au fait que Matthieu, dans son récit ici, parle d'oiseaux. Mais Luc, dans son écrit, va parler de corbeaux. Il va être plus précis dans la nature même de cet oiseau. Probablement parce que Jésus a parlé de corbeaux et Matthieu, lui, a résumé à oiseaux. Cette précision chez Luc est intéressante parce qu'elle nous permet de voir qu'un animal, même considéré par Dieu comme impur, tel était le cas de l'oiseau, du corbeau, pardon, eh bien, il les nourrit aussi par l'Éternel. Dieu s'occupe tout autant de ceux qu'il a considérés déjà comme impurs, comme il s'occupe de ceux qu'il considère comme purs. Jésus n'a-t-il pas dit à ce sujet que Dieu fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes ? Quand j'imagine... Le Seigneur, voyant tout ce qu'il voit, entendant tout ce qu'il entend dans ce monde corrompu, violent, idolâtre, blasphémateur, combien il est patient à continuer à donner la pluie, à donner le soleil, à donner la nourriture, même pour ceux qui lui font un pied de nez tous les jours par la manière dont il se comporte. Ça, c'est la patience de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous serions probablement moins patients que lui, et nous le sommes d'ailleurs parfois, lorsque nous entendons et voyons tout cela. Vous noterez que le prophète Élie se fera nourrir providentiellement par des corbeaux durant tout le temps de sécheresse et de famine. Cet épisode nous montre que le corbeau trouve de la nourriture quand les hommes, eux, n'en trouvent plus. Qui prépare au corbeau, dira encore Job, et c'est Dieu qui parle à Job, sa pâture, quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés. « Dis-le-moi, dit Dieu à Job, qui ?»« C'est toi, l'Éternel, toi seul peux faire cela. » Ainsi, nous pouvons être rassurés et convaincus qu'à travers cette image des oiseaux, le Seigneur assure qu'il va pourvoir en quantité suffisante. Je pense, et je reviens, un petit peu à cette thématique de la richesse, lorsque Paul à Timothée dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance, toutes choses pour que nous en jouissions. Tout appartient à Dieu, et c'est lui qui donne avec abondance. » Quant au second exemple que nous avons lu dans l'évangile de Matthieu pour argumenter le fait de ne pas s'inquiéter malgré l'inquiétude, l'incertitude, eh bien Jésus rappelle de considérer comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui va être jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi. En associant à son image les vêtements du roi Salomon, là encore, le Seigneur ne veut-il pas nous montrer combien il est capable non seulement de donner en quantité, c'est l'image des oiseaux, mais aussi en qualité à ceux qui mettent en lui leur confiance. La reine de Séba, en venant visiter Salomon, vit toute la sagesse de ce dernier et la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, la demeure de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient. J'étais frappé en relisant ce texte, en préparant cette prédication. Et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Or, d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse ? Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. » Même les vêtements de ses serviteurs avaient frappé les regards de la reine de Séba. À plus forte raison, quand Jésus parle des vêtements de Salomon, vous imaginez combien ils ont pu être et étaient somptueux. Oui, tout comme la reine de Séba, si nous plaçons le Seigneur en premier lieu dans notre vie, comme le dit Jésus, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, alors nous serons subjugués, nous serons étonnés de voir sa main à l'œuvre. Peut-être parmi vous, certains pourraient témoigner de cela dans leur vie passée, etc. Moi, je me souviens quand j'ai démarré mon ministère, par exemple, itinérant, où je suis parti une vie de foi, c'est le cas de le dire, eh bien, j'ai été subjugué, j'ai été frappé de voir la fidélité de Dieu jour après jour. Et cela fait maintenant 37 ans que je suis au service de Dieu à plein temps, en vivant de ce que Dieu me donne. Et la générosité du Seigneur est incroyable, à travers bien sûr les frères et les sœurs, c'est évident, mais c'est Dieu qui est là derrière et qui pourvoit à nos besoins. C'est à chacun aussi de rester dans l'humilité face à cela, bien sûr, et en même temps de faire confiance à Dieu qui va donner ce dont nous avons besoin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, terminait-il le Seigneur par cette image des oiseaux et des lys, car le lendemain aura soin de lui-même, chaque jour suffit sa peine. Mais pour cela, il faut une attitude. Les mots simplement ici sont importants, ils nous encouragent, mais il faut avoir une attitude pour pouvoir les vivre correctement, ces mots de Jésus, cet encouragement de Jésus. Une attitude. Imaginons un monde où tout serait certain, où rien n'arriverait qui n'ait été prévu. Tentant pour les anxieux, n'est-ce pas ? Mais en réalité, peut-être un peu triste, voire même cauchemardesque. Car lorsque le futur est prévisible, la vie pourrait même devenir une prison, sans piment. L'ennui nous guetterait. Nous nous plaignons de l'incertitude, parfois, mais pourtant c'est l'essence même de la vie sur cette terre. Et Dieu se sert de l'incertitude pour nous amener justement à une attitude particulière. Car au final, l'incertitude est une bonne chose, car elle nous maintient toujours en éveil. Elle stimule à l'action, elle stimule au projet, tout en nous maintenant dans le fait que rien ne nous appartient et quelque part, tout vient de Dieu. C'est pourquoi, pour l'enfant de Dieu, l'attitude face à l'incertitude est clairement donnée dans la parole. C'est la foi. La foi. La foi se définit comme le fait d'adhérer à quelque chose, à quelqu'un. Cela implique de se fier à ce quelqu'un, lui faire confiance. Certaines personnes feront confiance, nous l'avons évoqué, à l'argent, par exemple. D'autres aux hommes. D'autres à leur capacité. On pourrait rajouter pas mal d'autres sujets. Je rappelle que la foi est attaquée par Mammon, dont nous avons parlé. Et l'apôtre Paul, après avoir démonté et dénoncé cette puissance de Mammon, dit « Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, parce qu'ils mettent leur confiance dans ce qui est visible, dans ce qu'ils croient être pérenne. et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors Jésus va poser une question pertinente et déroutante à la fois. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Cette parole de Jésus est donnée en conclusion d'une parabole intéressante, la parabole dite de la veuve et du juge inique que nous lisons. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Voyez la conclusion de cette parabole où Jésus fait un lien étroit avec la foi et cette manière de faire de cette veuve qui insistait auprès d'un juge qui était lui inique, à plus forte raison quand nous insistons auprès de l'Éternel, notre juge qui est parfait, répondra-t-il à nos attentes. Mais l'introduction de cette parabole est intéressante. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et vous voyez, j'ai mis volontairement les textes en rouge qui sont importants. En introduction, Jésus parle de la prière et en conclusion, il parle de la foi. En interrogeant, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre ? Trouverai-je en fait des hommes et des femmes qui seront dans cette attitude de prière, c'est-à-dire de relation personnelle et intime avec moi ? La prière, est-il besoin de le rappeler, est l'élément essentiel pour faire face à l'incertitude, car elle dirige mes pensées vers celui qui connaît toutes choses, qui tient tout entre ses mains. Et je ne parle pas de la prière dite légaliste, qui prie parce qu'il faut prier. Non, de cette prière qui m'amène dans l'intimité avec Dieu, de cette prière ou de ce temps que je mets à part. Et en même temps, je le mets à part pour un moment dans la journée, mais je peux aussi le mettre à part dans mon esprit, même dans la journée. C'est une connexion dans un monde d'Internet. Nous savons ce que ça veut dire, la connexion, n'est-ce pas ? Et nous savons, et c'est un avantage extraordinaire, c'est qu'entre Dieu et nous, il n'y a jamais de bug. La connexion est toujours là. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, quel est notre sentiment vis-à-vis de cela ? Et je suis frappé quand Jésus interpelle à la fin de cette parabole, « Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai des hommes et des femmes qui seront dans l'attitude de cette veuve inique, de cette veuve, pardon, face au juge inique, des hommes et des femmes qui sont proches de moi ?» C'est cela que Jésus veut dire. De plus, par la prière, nous le savons, Dieu nous implique dans son plan, nous stimule à être acteurs. Combien de fois avons-nous essayé de mener notre propre barque sans en référer à Dieu par la prière ? Et cela ne nous a pas durablement réussi. Combien de fois avons-nous compté sur nos propres forces ? Et je m'adresse à moi le premier parce que cela m'arrive, pourtant bien limité, en oubliant notre fragilité, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit spirituelle. Il y a une expression que les jeunes disent assez souvent, « T'inquiète, je gère ». Vous l'avez entendu, je vois, n'est-ce pas ? Vous êtes comme moi. Expression formulée qui résume en quelques mots, « Même si ce n'est pas comme tu voudrais, laisse-moi m'en occuper, tu verras, tout va bien se passer. » Oui, mais justement, c'est bien le problème. C'est qu'on a l'impression que ça va mal se passer en disant « T'inquiète, je gère ». Disons-nous à Seigneur, t'inquiète Seigneur, je gère, fais-moi confiance. Ou bien laissons-nous au Seigneur nous dire, non, non, c'est moi qui vais gérer, fais-moi confiance. Je sais que tu es dans la difficulté, je sais que ta vie n'est pas simple, mais laisse-moi gérer les choses. Ne regarde pas à côté, ne convoite pas à côté, ne cherche pas à voir comme d'autres peuvent t'avoir. Ça c'est, je m'en occupe aussi de leur situation, mais toi, laisse-moi gérer. Et je ne dis pas que c'est simple, bien évidemment. Je ne suis pas là un donneur de leçons. Nous avons tous passé par des étapes compliquées de notre vie. Je me souviens, à propos de cette incertitude, il y a 27 ans, avoir donné ma première lettre de... 24 ans. Avoir donné ma première lettre de nouvelles, démarrant mon ministère itinérant avec France Évangélisation, c'était en janvier 2002. Ouais, ça fait 23 ans. Et donc j'ai envoyé ma lettre de nouvelles début janvier. C'était ma première. Je suis à ma 74e maintenant. Et 15 jours plus tard, je découvrais ma femme, 36 ans, qui était morte. Et là, j'avais commencé ma lettre de nouvelles en écrivant « Que nous réserve cette nouvelle année ?» J'étais gonflé, hein ? Enfin, gonflé. Oui, « Que nous réserve cette nouvelle année ?» Si j'avais imaginé que 15 jours après avoir écrit ça et envoyé ça à des dizaines et des dizaines de personnes qui connaissaient mon ministère, il se passerait ce qui s'est passé, je ne sais pas si j'aurais écrit ça de la même façon. Et c'est là que entre en compte, effectivement, à la fois la prière et la foi. Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant ? Avec 4 enfants petits et étant tout seul face au ministère itinérant et mes déplacements qui vont arriver. Et je n'ai pas dit au Seigneur, t'inquiète, je gère. J'ai eu, par la grâce de Dieu, grâce aux prières des frères et des sœurs, pu dire au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, il faut que tu gères là, parce que j'en peux plus, je ne vais pas m'en sortir. Et le Seigneur a géré, comme je vous l'ai rappelé et dit tout à l'heure, le Seigneur a géré de façon extraordinaire. Et je ne suis pas meilleur que vous. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis sur la haute pile des dossiers du Seigneur. Hein. Absolument pas. J'ai mes problèmes, j'ai mes difficultés, comme vous. Mais si vous laissez le Seigneur gérer, vous verrez sa main à l'œuvre de façon toute particulière, comme j'ai pu le voir. Et en même temps, l'ennemi fera tout pour éloigner justement ce regard de la foi vers Jésus, pour nous décourager, nous faire regarder justement ailleurs. Et je pense à ce verset d'Hébreux chapitre 12, qui, la Palisse n'aurait pas dit mieux, suit le chapitre 11. Mais que se passe-t-il au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux ? Vous avez toute une panoplie de héros de la foi. Donc des hommes, des femmes qui étaient dans la relation intime avec Dieu. Et leur foi a été louée par le Seigneur. Qu'ils aient été bénis ou qu'ils n'aient pas reçu les bénédictions. Dans le texte, il y a les deux situations. Mais le chapitre 12 commence au verset 3, dit « Ayez les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Ayez les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Il est évident que ceux du chapitre 11, les héros de la foi, dont la vie est nommée très succinctement, ne regardaient pas à Jésus parce que Jésus n'était pas encore venu. Même si un Abraham a pu voir quelque chose, même si un Moïse a pu déjà discerner quelque chose. Mais tous n'ont pas eu ce discernement, cette révélation. Ils regardaient à Dieu, le Père, qui a envoyé son Fils. Et c'est ce Fils aujourd'hui, parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, qui nous demande de regarder à lui, n'est-ce pas ? Et pour pouvoir avoir un retour cette foi. Et lorsque nous gardons ses yeux fixés sur Jésus, alors l'incertitude n'est plus inquiétude. Elle est paix, stabilité, tranquillité. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. C'est pourquoi l'apôtre Paul va encourager les chrétiens de Philippe, comme il nous encourage, je l'espère en tout cas nous aujourd'hui, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications » avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Apprenez ce verset par cœur. Prenez-le. Parce que c'est des passages que nous avons besoin de savoir pour pouvoir les reprendre à n'importe quel moment peut-être de situation que nous pouvons vivre et où nous n'aurons peut-être pas la parole de Dieu avec nous sur le moment. Ne vous inquiétez de rien, mais priez. C'est-à-dire, restez dans cette communion avec moi. Comment est-ce que vous alimentez la communion avec Jésus-Christ? Comment est-ce que vous vivez cette communion au quotidien avec Jésus? C'est ça qui est important. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ce dont nous avons le plus besoin. Alors mes amis, ne laissons pas la frénésie des médias avides de scoops nous inquiéter plus que de nécessaire. Les réseaux sociaux sont remplis de fake news, nous le savons. Et rappelons-nous qu'il y en a un qui est considéré comme le père du mensonge, donc des fake news, c'est Satan lui-même. Et nous voyons bien là comment, à travers les réseaux sociaux, l'ennemi utilise ces mensonges pour détourner les hommes de la vérité. Et Béa a bien rappelé tout à l'heure que Jésus est la seule vérité que nous pouvons avoir dans ce monde. Et il est venu pour cela, pour nous le dire. Et il y a en même temps une certitude pour l'Église de Jésus-Christ que nous sommes aujourd'hui, l'épouse qui connaît, qui attend, c'est bien le retour du Seigneur Jésus. Est-ce que nous attendons le retour du Seigneur Jésus? Ou bien sommes-nous entrés dans cette pensée que « Oh, ben, ça fait maintenant un moment qu'il a dit qu'il reviendrait. Ouais, bon, ça fait long, quoi. C'est pas dit qu'il revienne, quoi. » Mais vous savez que quand les premières prophéties concernant la première venue de Jésus sont venues dans l'Écriture, ont été données à des hommes, il y avait plus de 2000 ans avant que cette première venue vienne aussi. Et ils attendaient pour certains cette prophétie du Messie. Nous sommes à peu près ric-rac aujourd'hui, entre 20 siècles, quand il a dit « Je reviendrai ». Et c'est ce qu'il a dit. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Et c'est là que dans la suite de ce texte, Thomas et Philippe vont interroger Jésus. Et dans cette réponse aux interrogations de Thomas et de Philippe, Jésus rappellera ce que Béat a cité, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à Dieu que par moi. » Alors je vous invite, chers amis, et si encore vous n'avez pas fait ce pas de la foi, à le faire le plus tôt possible. Si vous êtes inquiet de cette vie et vous avez raison intellectuellement de l'être, mais spirituellement, vous pouvez ne plus être inquiet parce que vous pouvez vous en remettre au Seigneur Jésus qui portera tout cela à votre place. Son fardeau est doux et léger. Mais pour cela, il y a cet élément de foi qu'il faut mettre en œuvre. C'est-à-dire lui dire tout simplement, « Je veux te faire confiance dans ma vie. Seigneur, prends en charge mes difficultés. Prends en charge mes soucis. Je te les remets. » Et s'il vous plaît, si vous le faites dans une prière, eh bien, ne passez pas à la porte en reprenant vos fardeaux sur l'épaule. Non, laissez-les réellement au Seigneur Jésus. C'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Mais prenez conscience de cela et vous verrez, les choses vont être, je le crois, totalement différente. Oui, gloire à toi, Seigneur Jésus. Prions encore. Ô Seigneur, merci encore de nous rappeler ces éléments si simples, si évidents, mais Seigneur, parfois si compliqués à mettre en œuvre. Et nous voyons là l'œuvre du malin qui veut nous détourner de cette simplicité de la foi, de cette simplicité de la dépendance à toi seul. Tu nous demandes, Seigneur, d'être comme des petits-enfants. Et un enfant normalement, on fait confiance à ses parents, s'il a des parents stables, équilibrés, bien sûr. Et c'est dans cet esprit que tu le dis. Alors Seigneur, donne-nous d'être de ces petits-enfants, simples, qui viennent auprès du Père, en sachant que la nourriture sera là, en sachant que le vêtement sera là, en sachant que tu pourvoiras à tout, Seigneur, comme toi tu le permettras, comme toi tu le voudras. Tu es souverain, tu sais ce dont nous avons besoin, chacun pour notre part. Et ce n'est pas à droite et à gauche que nous regardons, c'est d'abord à toi, Seigneur, et nous nous attendons à toi seul. Oui, gloire à toi, Seigneur Jésus. Et je te prie particulièrement, Seigneur, de renouveler ceux qui, ce matin, sont fatigués, sont chargés, sont découragés, ont des difficultés. Seigneur, tu les connais. Qu'ils puissent te le dire simplement, comme un petit enfant. Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai voulu peut-être gérer moi-même ma situation. Ô Jésus, maintenant, je te laisse les rênes de ma vie. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni pour cela. Amen.